Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdouin et c'est l'heure de l'interview avec au studio Arthur Doré. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Tu es ici pour nous annoncer un lieu ou un moment de formation pour la création musicale assistée par ordinateur intitulé Zeek Lab.
C'est ça, ouais, carrément. Donc du coup, en fait, là, je suis en train de monter ce projet-là, Zeek Lab, à Die. Pour accompagner les personnes qui souhaiteraient apprendre un peu plus à composer de la musique sur ordinateur, mais aussi en enregistrer et comprendre un petit peu comment se structure un morceau. Parce que le constat était fait que moi, ça fait 15 ans que j'en produis et j'ai très envie de transmettre et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de proposer ça. Et donc, pour lancer cette structure, je vais faire une première conférence à l'avant-poste, donc derrière la cathédrale aux 3 rues Notre-Dame, vendredi 27 juin, donc à la fin de cette semaine, pour faire un tour d'horizon de ce qui est possible de faire avec cet ordinateur et ses différents logiciels, et ensuite pouvoir proposer des cours à domicile de musique assistée.
Ce sera à quelle heure ?
Donc c'est de 18 à 20 heures et c'est suivi par un apéro partagé. Donc l'idée c'est que chacun ramène une petite chose à boire, à manger et qu'on puisse en fait profiter de ce temps-là pour se rencontrer, de partager ses expériences en production ou pas justement s'il y a des personnes un peu nouvelles dans le domaine. Et voilà, c'est l'idée.
Alors cette notion de composition assistée par ordinateur, c'est relativement récent hein, dans le monde de la musique. On peut dater les premières tentatives, j'imagine que tu as une histoire aussi de cette musique.
Ouais, alors précisément, c'est assez vaste parce que tu as à la fois le côté justement plutôt analogique avec les premières machines. Sur ordinateur, c'est pas si vieux que ça non plus, mais ça commence à avoir un petit peu d'années. J'ai pas les dates précises en tête. Hein. En tout cas, moi, ça fait 15 ans que je m'y intéresse. Et ce qui est vraiment chouette avec cet outil qu'est l'ordinateur, et notamment de le faire depuis chez soi, ça permet d'avoir un home studio, comme ça s'appelle un peu cette mouvance-là. Avec en fait très peu de matériel, on peut commencer à faire des choses très intéressantes. Notamment, moi je compose dans plusieurs styles, que ce soit électro, avec un peu plus de la house, de la drum and bass aussi. Mais surtout, j'ai un groupe de punk rock, donc garage rock. Et sur lequel en fait j'enregistre tout depuis chez moi, y compris la batterie avec ce qu'on appelle un VST, c'est un synthétiseur numérique. Et il existe même des synthés du coup qui réutilisent des morceaux, des sons de batterie. Donc du coup je peux vraiment faire ma batterie sur l'ordinateur. Donc en fait avec ça, ça me permet notamment de faire l'intégralité des compos, je les enregistre avec la voix, la guitare, la basse et la batterie. Et ensuite je peux les donner en fait à mes musiciens qui du coup s'approprient la compo et puis ça leur permet de l'apprendre quoi.
Alors donc par ordinateur tu crées des partitions ?
Ouais, alors des partitions, non je dirais pas ça parce qu'en gros les partitions c'est pour lire. Moi j'ai toujours travaillé la musique plutôt à l'oreille et sans partition parce que le solfège c'était pas mon truc. Mais on peut appeler ça genre des maquettes en fait, des maquettes audio qui permettent à la fois de faire connaître son travail, donc sortir de sa chambre, soit composer pour pouvoir faire du live, soit composer pour pouvoir faire écouter son travail à par exemple des salles de concert, etc. Et en fait, tout simplement aussi pour s'amuser au quotidien, à créer des petits morceaux, à faire écouter à ses potes, à sa famille. Et puis, c'est vraiment une pratique qui est très créative. Donc du coup, c'est un domaine qui est accessible à pas mal de monde. Et je pense qu'après 15 ans d'expérience, j'aurais beaucoup aimé qu'on me transmette en fait, des erreurs à ne pas faire ou alors justement des tips à suivre pour, entre guillemets, aller plus vite dans son processus de création. Parce que quand on commence, c'est quelque chose qui est très très vaste. Les logiciels, ça peut vite faire usine à gaz. Et moi, je m'étais un peu gavé de tutoriels sur YouTube, mais c'est vrai qu'il faut avoir une sacrée détermination pour se former. Alors que si on a quelqu'un qui nous accompagne pour faire ses premiers pas, je pense que ça peut être très utile.
Ce stage s'adresse à qui ?
Alors du coup, c'est une conférence sur une soirée qui s'adresse bah, à toute personne qui voudrait, qui s'intéresse à ce style de musique. Ça peut s'adresser aux adultes qui voudraient développer un petit peu leur créativité, qui avaient peut-être un petit peu déjà une musicalité en tête, mais qui n'auraient pas forcément d'outils pour le faire. Ça permet aux personnes aussi qui aiment beaucoup l'ordinateur, parce que c'est vrai que mine de rien, cette pratique, elle amène à être sur l'ordi. Donc si on n'est pas trop familier avec, ça peut venir, mais je pense qu'il faut déjà quand même un petit peu une petite sensibilité à ça. Et ça s'adresse aussi aux jeunes. Je pense notamment à des jeunes qui écouteraient par exemple du rap ou des musiques qui nécessitent de la création sur ordinateur. Donc je dirais que les deux publics, ça doit être entre 40 pour des personnes qui souhaiteraient suivre ça, puis aussi peut-être entre 12 et 20 ans. Mais voilà, après ça reste ouvert à tout le monde.
Alors il y a aussi ceux qui composent hein, la musique, toi-même j'imagine que tu la composes, tes propositions sont issues de tes compositions, d'autres utilisent des matériaux existants pour pouvoir les retravailler aussi grâce à l'ordinateur, ouais. C'est divers aspects-là que tu présenteras également.
C'est ça, voilà, alors justement en fait pendant la conférence je vais diffuser environ 6 morceaux de 6 projets différents que j'ai pu faire en 15 ans. Donc il y a eu notamment plusieurs projets en électrique, donc avec du rock, du punk rock, c'est un peu le style de musique avec lequel j'ai grandi pendant mon adolescence, etc. Et effectivement, donc plus pour la partie trip-hop, rap, il y a beaucoup de sonorités qui utilisent des samples, donc vraiment des parties de morceaux existantes qu'on réutilise, qu'on manipule, qu'on transforme pour créer de nouvelles matières audio. Et notamment dans mon projet, ça peut être intéressant qu'on en écoute un bout, dans mon projet Grand Ours Inner Vision, un petit EP que j'ai produit en trip-hop, j'utilise quasiment que des samples. Alors justement, il y a une raison pour ça aussi, c'est que moi j'avais un ordi qui n'était pas très performant, notamment au niveau du processeur, et pour avoir un logiciel qui tourne pas mal avec des synthés numériques, etc., il faut avoir un petit peu de puissance. Mais ça n'empêche pas la créativité, parce que les samples, en fait, vu que c'est de l'audio, ça n'utilise quasiment pas de ressources de l'ordinateur, et c'est pour ça que j'ai utilisé quasiment que des samples sur ce projet-là. Et en fait, en partant d'un sample vraiment qui n'a rien à voir, en le manipulant, tu peux vraiment créer quelque chose d'un peu nouveau. C'est aussi un monde qui est hyper passionnant que je vais transmettre aussi.
Nous allons justement, à ta proposition, passer un extrait donc Inner Vision.
Inner Vision de Grand Ours, le projet trip-hop sur lequel j'ai travaillé.
Voilà, donc un extrait d'Inner Vision composé par toi, Arthur. Il y a une chose qui m'interpelle assez vite, c'est cette construction musicale. On peut dire qu'elle s'inspire aussi de ce mouvement de musique contemporaine, notamment musique répétitive, minimaliste. Mmh. Est-ce qu'il y a, pour toi, il y a eu un processus, une suite de ce mouvement?
Oui, oui. Bah après, c'est clairement, il y a plein d'inspirations dans cette musique. Moi, c'est ce que j'adore faire, c'est vraiment écouter énormément de musique et ensuite m'inspirer un petit peu de différentes mouvances pour créer un peu mon style. Parce que moi, je pense qu'en fait, tout style qui est créé, enfin tout morceau et album, etc., qui est créé, en tout cas pour moi, c'est vachement inspiré de ce que j'écoute, évidemment. Et notamment là, c'est très inspiré d'un voyage que j'ai fait en Colombie. Et c'était un voyage assez, entre guillemets, initiatique, assez spirituel. Donc du coup, il y a cette vibe un peu spirit qui ressort.
Comme tu dis, il y a aussi cette quête spirituelle. Est-ce que ça, c'est l'inspiration de ta musique et qu'est-ce qui la dénote d'une musique plutôt festive, en quelque sorte?
Bah, concrètement, là, c'était à cette période-là. Donc c'était en 2020 que j'ai créé ça. Cette période-là, j'avais vraiment besoin de prendre du recul, etc. En fait, c'est vrai que là, on va sur des trucs un peu plus perso. Et en fait, ce qui la dénote d'une musique plus festive, c'est son côté plus lent, son côté justement répétitif, presque un peu trans. En fait, moi, j'ai écrit ce morceau pour qu'on se pose et qu'on l'écoute en planant tranquillement. Presque méditatif, en fait. Donc, ouais, ce qui la différencie, c'est surtout son côté calme.
L'instrument musique, la guitare, les basses, ouais. Quelle est leur place? Tu parles de saisir certainement par micro les jeux d'instruments, et ensuite ce sont des pistes numériques à laquelle tu pratiques en quelque sorte un mélange, une composition ou un mixage.
Ouais, du coup, dans ce morceau-là, il n'y a pas du tout de captation live. C'est vraiment que du sample que j'ai travaillé, retravaillé. Et j'entends souvent, en fait, des personnes qui débutent la production de musique me dire que j'ai pas envie. Enfin, c'est la phrase qu'ils disent, c'est j'ai pas envie d'utiliser des samples parce que ce sera pas ma musique. Et en fait, c'est simplement qu'on peut avoir cette idée que, effectivement, en utilisant un bout de sample qui est tout fait, déjà, moi, j'ai rien contre ça parce que si c'est un élément qui vient s'ajouter, par exemple, à une rythmique, etc., ça peut le faire. C'est plus effectivement les éléments mélodiques qui sont intéressants à retravailler, mais en fait avec les logiciels de production, moi j'utilise Ableton pour ceux qui pourraient connaître, ça marche aussi sur Fruity Loops et tous les logiciels de production que je présenterai durant la conférence vendredi prochain 27 à l'Avant-Poste. Mais en gros, l'idée, donc pour répondre à ta question, sur certains projets, je mélange effectivement des prises live et des prises numériques. Parfois, je les retravaille, souvent, je les laisse un petit peu telles quelles, les prises acoustiques. Et notamment avec mon dernier projet, First Quest, qu'on va s'écouter juste après, là, c'est quasiment que du live avec ma voix, j'ai la basse, la guitare. Et il y a juste la batterie que j'utilise grâce à un logiciel, un VST, encore une fois, c'est un synthétiseur numérique, qui permet d'émuler en fait un jeu de batterie vraiment avec la force qu'on peut mettre sur les différents éléments pour créer un côté humain, parce que c'est vrai que dans ces logiciels-là, on peut vite aller sur quelque chose de très robotique. Parce que finalement le jeu humain il est doté d'erreurs et d'imperfections, et c'est ça qui fait un peu la touche humaine.
Cette batterie, ça m'a éveillé une question et tu y as répondu. Est-ce qu'on peut justement amener en quelque sorte le défaut humain dans le processus, dans le jeu même?
Ouais, et bah, ça, c'est possible.
Ça se règle, voilà, on a peut-être une piste propre. Ouais. Hein, robotique, d'une rythmique, et tu as des logiciels qui permettent d'influer sur certains rythmes de manière à les rendre peut-être moins parfaits.
Alors des logiciels à proprement parler, pas forcément, mais par contre je le fais à la main. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait des prises de clap, donc avec mes mains, et en fait pour donner une impression de mouvement, parce que c'était assez linéaire, j'ai assigné à un bouton le volume, et donc du coup je faisais varier un peu le volume pour créer un petit peu de la dynamique un peu plus loin, un peu plus près. Et sinon, oui, en fait, c'est vachement ça aussi, la vélocité. Donc, la vélocité, c'est le volume. Il y a possibilité de faire varier, parce qu'en fait, souvent, ce qui varie, c'est la puissance du coup. Par exemple, un coup de médiateur sur une guitare ou sur une guitare ou sur une batterie avec une baguette. Et donc, moi, dans ma méthode, je le fais un petit peu à la main. Je bricole, en fait. C'est ça que j'aime bien, en fait, avec ces logiciels et notamment la manipulation des sons. C'est le côté un peu artisanal de la chose. Et d'aller découper, bidouiller, c'est hyper passionnant, quoi. Il y a vraiment moyen de faire des belles choses avec ça.
Il y a donc une présentation hein, de la plupart de logiciels que tu utilises. Tu nous en as cité quelques-uns, mais est-ce que le choix est vaste ?
Alors le choix, il est vaste, notamment par rapport au prix. Il y a des logiciels qui sont un peu plus libres de droit, qui ont peut-être un peu moins de possibilités, comme Reaper. Alors je ne sais plus où est-ce que ça en est, parce que moi je ne l'ai jamais utilisé, mais j'ai des copains qui sont dessus. De toute manière, ça, je pense que c'est mieux qu'on rentre en détail directement lors de la conférence, parce que comme ça, on pourra avoir un temps d'interaction avec le public. Mais ouais, ce qui les différencie aussi beaucoup, c'est l'interface. Moi, j'avais commencé avec Fruity Loops, qui est une interface sous forme de pattern. Donc en fait, en gros, tu as une pattern, tu mets ta batterie, un instrument, etc. Et ensuite, tu peux dupliquer cette pattern pour créer ta structure. Sur Ableton, c'est encore un autre processus parce qu'il y a une vue plus dédiée au live et une autre vue plus dédiée à la composition en studio. Donc en fait, je dirais que chaque logiciel a un petit peu ses particularités. En fait, ils sont pas du tout incompatibles les uns avec les autres. On peut très bien, par exemple, produire sur Cubase ou Pro Tool sa piste de base studio et ensuite la déconstruire et exporter les différentes pistes pour ensuite la rejouer en live sur Ableton. Donc c'est vraiment un monde qui est très ouvert et c'est ça qui est chouette. Il y a vraiment moyen de faire sa propre sauce avec ce qui nous est proposé.
Quel système d'exploitation sera proposé autour de ces logiciels Windows, Apple ?
Eh ben, j'ai jamais testé en tout cas avec les autres que ces deux-là. Moi, j'ai fait sur Windows, j'ai fait sur Mac. Je sais que personnellement, je suis plutôt amateur de Mac parce que ça m'a, en 10 ans, j'ai quasiment jamais eu de plantage du logiciel. Mine de rien, quand tu es amené à faire du live, c'est bien d'avoir une plateforme qui est stable pour éviter que ça crache ou quoi que ce soit. Donc Windows et Mac, après moi je dirais quand même c'est possible de le faire avec un périphérique en mauvaise, enfin avec pas des grandes performances. C'est quand même conseillé d'avoir un ordinateur qui tient un peu la route pour pouvoir être assez libre sur ses créations, sinon ça peut avoir, il peut y avoir de la latence, donc en gros le son soit décalé de ce qu'on joue, ou il peut y avoir aussi un petit peu des surcharges de processeurs, mais bon, de toute façon ça c'est quelque chose dont on peut discuter tranquillement.
Et puis il y a aussi le style de fichier, le type de fichier, soit c'est du WAV, du FLAC ou alors du MP3. Le MP3 c'est carrément pas très bon pour composer.
Ouais, alors le gros avantage du MP3, c'est surtout sa taille. Et du coup, moi, ce que je fais, en fait, quand je produis mes musiques, enfin, quand j'exporte mes musiques pour les diffuser, je les sors en WAVE. C'est un fichier pour moi qui est très bien, qui n'est pas trop volumineux. Et en MP3, ensuite, pour juste partager, par exemple, avec les musiciens des démos, etc., en fait, ça ne sert à rien de le mettre en grande qualité. C'est plus pour choper un peu les différents éléments.
Il y a aussi le traitement hein, de ce son avec d'autres logiciels, des modulateurs, tout ça. En fait, tout ce qui existe en analogique actuellement dans le commerce sont convertis aussi en programme numérique. Ouais. Donc ça permet une très grande richesse d'outils.
Ouais, c'est ça carrément. Bah, après, la grande différence pour bien comprendre, c'est que l'analogique, c'est du matériel en fait qui est physique. Et donc du coup c'est des signaux qui passent directement dans une machine qui est dédiée à ça, et donc du coup souvent en fait les constructeurs font des super périphériques qui donnent un grain, en fait une chaleur au son qui est parfois difficile à égaler, même si aujourd'hui avec des périphériques numériques on arrive à faire des très belles choses qui valent plutôt cher. Après, directement dans les logiciels, il y a toute une suite d'effets dans chaque logiciel hein, aujourd'hui, avec que ce soit de la compression pour donner plus de puissance au son, que ce soit par exemple de la reverb pour donner plus de grandeur au son, ou du delay, etc. Ça c'est des choses que j'aborderai vendredi dans la conférence. Et donc du coup, si on s'attend à un son studio parfait, etc., mais ça c'est quand on est ingé son depuis 30 ans, etc., effectivement on peut sentir la différence Honnêtement, pour le commun des mortels, il y a énormément d'artistes qui passent quasiment que par l'ordi. Tout est faisable en numérique aujourd'hui et c'est très bien. Moi, preuve en est, tout ce que je fais, c'est quasiment full numérique.
Il y a aussi la possibilité, j'ai vu ça de mes yeux, c'est un ingénieur du son où j'ai visité son studio.
Okay.
Et c'était une pièce remplie de racks du sol au mur, ouais. Au plafond.
Ouais.
C'était énorme.
C'est ça.
Et, donc, mais c'était en quelque sorte de l'analogique. Donc il y a cet apport du produit numérique et qu'on peut retravailler aussi en analogique et donc ramener encore une autre chaleur peut-être dans le son.
Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est vraiment en fonction de ses moyens aussi, de ses connaissances techniques. Moi, je dirais que même moi, après 15 ans, j'utilise une carte son qui me permet de faire rentrer ma guitare sur l'ordinateur et un micro que je branche en USB, donc ça reste encore presque du numérique. À part ça, en fait, tout passe par le numérique. Donc, voilà, le matériel, c'est plus... c'est pas forcément quelque chose que je vais aborder moi, si ce n'est en fait du matériel qui peut, par exemple, contrôler l'ordinateur. Donc ça peut être justement une alternative. Il y a des claviers MIDI. Donc le MIDI, c'est le signal qui permet de diffuser en fait un message donc tactile. Par exemple, j'appuie sur une touche et l'ordinateur ensuite l'interprète sur un plugin en fait qui est sur le logiciel. Donc par exemple, c'est ce qui me permet justement de jouer des synthés numériques. Donc il n'y a pas de synthé directement dans le clavier. Mais ça me permet quand même d'avoir une touche un peu fun à bidouiller mes sons à la main. Donc voilà, en soi, tout est compatible, ça dépend du budget, de l'expérience de la personne. Moi, honnêtement, je dirais à des personnes qui débutent de ne pas se prendre la tête sur le matériel, mais plus d'essayer de comprendre la musicalité, la structure d'un morceau, et surtout de bien écouter en fait, des exemples de ce qu'ils aiment, et d'essayer de comprendre en fait, qu'est-ce qui se joue. Ok, là, il y a une batterie, là, il y a ça, tel passage, c'est plus calme, etc. Ça m'évoque telles émotions, c'est le plus important pour moi.
On peut peut-être passer à un autre extrait musical pour illustrer un peu le propos.
Ouais, carrément. Donc du coup, là, on s'était écouté un truc plutôt trip-hop électronique. Est-ce que tu peux me rappeler un peu ce qu'il y a ?
Il y a Fiction 2, Fuzz Quest, on avait dit qu'on le mettrait en fin d'émission.
Ouais.
Goldie, I Got Shot in the Head et Ned Logg.
Ouais, alors en fait, les autres projets, ça va être plus du mix. Donc là, je vais interpréter. Donc on peut aussi écouter ça aussi, il y a la partie mixage. Parce que parfois, quand on produit de la house, ce qui peut être intéressant, c'est de la jouer en direct sur des platines sans forcément être obligé de jouer sur les synthés, etc. Donc là, si tu veux bien, on va se mettre Goldie. Donc c'est mon projet un peu mix principal. C'est mon alias house, donc on peut s'écouter ça.
C'était Goldie. Comment s'influe aussi cette rythmique un peu soul, un peu jazzy?
Ouais, c'est ça. C'est ce que j'aime beaucoup dans la house et dans l'électronique en général, c'est qu'il y a souvent des rencontres entre plein de styles de musique dont on n'aurait pas forcément l'habitude d'écouter, mais qui justement permettent de les remettre un peu au goût du jour. Et là, c'est vrai qu'on peut appeler ça de la micro-house, donc c'est de la house très tranquille, très détente. Qui utilise pas mal de codes, effectivement un peu jazzy, un petit peu avec des synthés assez planants, lounge on pourrait dire. C'est ce que j'aime dans ce style et c'est ce qui m'a fait justement créer ce projet qui existe depuis à peu près 10 ans et avec lequel je fais des dates un petit peu à droite et à gauche.
C'est toujours un peu groove en tout cas.
Ouais, toujours groovy. Alors ça, ce projet-là, il se veut un peu plus dansant. C'est plus dédié par exemple à une terrasse où tu bois ton coup tranquille et du coup je te crée une ambiance qui te permet d'être relax.
À l'inverse, est-ce que les influences telles que Pierre Schaeffer, j'imagine que tu connais quand même.
Pas spécialement, non.
C'était le créateur de la musique concrète hein, dans les années 50, okay, qui prélevait justement des... il samplait en fait des sons et qu'il retravaillait sur bande magnétique à l'époque.
Ouais.
Mais il y avait ce côté expérimental un peu abrupt à l'oreille. Toi, c'est pas ton centre d'intérêt, cette expérimentation, cette recherche pure?
Pas tellement. Moi, j'avoue que je suis plutôt... j'ai grandi, en fait, avec la musique rock californienne, très rentre-dedans, très punch, sans concession et sans expérimentation, qui cherche pas à réinventer, mais plutôt à faire bouger le popotin, comme on pourrait dire. Par contre, j'ai mon guitariste Chris de la Brasserie Flaise, à qui j'envoie un gros boujou, qui, lui, est beaucoup plus orienté musique expérimentale, etc. Et c'est ça qui est vraiment chouette de jouer en groupe, c'est de se partager un petit peu des, justement des influences, etc. Mais j'avoue que moi, j'ai une approche assez sensible de la musique et très mélodique, notamment. Donc les expérimentations un peu qui partent dans tous les sens, j'y suis pas fermé du tout. Ça m'arrive d'aller... des fois à la Nick Cave notamment, qu'on connaît pour justement sa programmation un peu plus expérimentale. Mais c'est pas quelque chose que personnellement je vais chercher à creuser, non.
L'investissement, quel est-il pour quelqu'un qui souhaite débuter ou se lancer dans ce travail de composition, de création? J'imagine que, bon, à part un ordinateur... plutôt performant, hein, j'imagine aussi.
Sans être obligatoire, mais effectivement un peu plus performant, c'est bien.
Et donc il y a aussi divers moyens de s'approvisionner en logiciel. Il y en a qui sont en libre de droit ou qui sont ouverts. Hein.
Ouais, c'est ça. Bah en gros, il faudrait que je fasse plus une recherche sur ceux qui sont justement libres de droit parce que je les connais pas trop. C'est possible d'avoir des licences gratuites, notamment Ableton, il me semble Fruity Loops sont une version d'essai, donc en gros même gratuitement c'est possible d'essayer. Il me semble que Reaper est gratuit, mais il faudrait encore une fois que je me
Alors vérifie. il est continuellement à l'essai hein, il nous propose si on veut payer quelque chose, il le propose, mais c'est vrai qu'il est toujours accessible.
Oui, c'est ça. Et du coup, ça, voilà. Et sinon, en investissement, il y a très important une source d'écoute audio. Donc, ça peut être soit des enceintes qu'on appelle des monitoring. En fait, le principe des monitoring, c'est d'avoir une écoute qui est la plus neutre possible pour éviter d'influencer trop dans les basses ou trop dans les aigus. Parce qu'ensuite, quand on mixe son morceau, il faut qu'il sorte bien sur n'importe quel système audio. Ça, j'en parlerai un peu plus en détail dans la conférence. Et sinon, tout simplement un casque. Alors, en fait, moi, je trouve que déjà, avec les éléments qu'on a sous la main ou qu'on peut se procurer pour pas trop cher, c'est possible de commencer. Ensuite, si on veut aller un peu plus loin, on peut se procurer... moi, souvent, je recommande l'occasion. Hein. Il y a des sites comme Audio Fanzine sur lesquels il y a vraiment des très bons rapports qualité-prix et des personnes qui prennent toujours très soin de leur matériel. Donc franchement, pour une centaine d'euros, on peut se choper un casque, un clavier MIDI, et pour peu qu'on ait déjà un ordinateur, ça part, et puis c'est accessible, quoi.
Et puis ensuite, une carte son
Carte son, si on veut faire de l'enregistrement ou qu'on a envie de mettre un micro, après ça dépend des envies de chacun. Et puis en fait, ce sont des instruments de musique, hein, donc c'est comme une guitare ou quoi que ce soit, il y aura un petit prix, mais l'avantage c'est que là on peut acheter les éléments séparément, et séparément en occasion, ça vaut vraiment pas très cher.
Il y a, pour finir l'émission, First Quest. The Journey, c'est ton groupe, tu disais.
C'est ça, mon groupe actuel qui devrait commencer à se produire à partir d'octobre. Donc là, on a une douzaine de compos qu'on est en train de bosser très sérieusement.
C'est un groupe du Diwa ?
Groupe pur Diwa. Alors on répète sur Poney, mais y a trois musiciens qui sont de Di. Et l'idée, en fait, si jamais il y a des salles qui entendent ce message, notamment à Di ou dans la périphérie, moi je serais très intéressé d'en discuter pour pouvoir faire jouer ce groupe dont vous allez entendre l'extrait.
Oui, on se quittera donc avec cet extrait. Que dire de plus? C'est pour tous les âges.
Pour tous les âges, donc du coup, rendez-vous vendredi 27 juin à la fin de cette semaine à l'avant-poste. Donc ce sera dans la salle du bas, juste après l'escalier à droite.
La grande salle.
La grande salle, c'est ça. Et donc on se fera un petit apéro dans la cour tranquillou. Donc soyez les bienvenus à cet événement.
D'autres annonces à produire justement autour de la musique? Est-ce que toi-même, tu seras présent sur des occasions?
Honnêtement, pour l'instant, j'ai rien de prévu prochainement. Donc,
c'est l'été.
Ouais, c'est l'été, mais en mode on bosse à fond avec First Quest. Donc, du coup, c'est plutôt l'annonce. C'est rendez-vous à la rentrée pour du gros rock à 10.
Vous êtes au frais là-bas?
Ouais, carrément, carrément. On est un peu plus en hauteur. Alors après, là, ça, on n'a pas répété la semaine dernière, donc je sais pas comment ça va être là, mais en tout cas, peu importe la chaleur, on est chaud.
Ouais. Est-ce qu'il y a un site internet de Zyklab?
Pas encore. Là, j'ai fait, pour commencer, un document de présentation sur PDF que je vais présenter, que je pourrais envoyer justement aux personnes suite à ça. Justement, je vais proposer au public de rentrer son adresse mail en fait sur une feuille qui permettra justement de tenir au courant les gens de la newsletter. Et effectivement, si ça s'est amené à fonctionner, donc je vais faire un site. Donc l'idée, en fait, justement, c'est ça. C'est une conférence pour se présenter, pour voir un petit peu comment ça peut se passer. Et ensuite, je proposerai au début des séances d'essai pour séances découvertes en fait à 20 € qui permettront en une heure de faire le tour d'où en est la personne, de ses ambitions, etc. Et ensuite de définir un forfait ou justement plutôt des tarifs à l'heure au cours pour qu'on puisse ensemble progresser vers de la musique.
Pour ce vendredi, il n'y a pas nécessité de venir avec un ordinateur.
Non, après, c'est peut-être intéressant parce que justement, il va y avoir, si les gens le veulent, des partages d'expériences. Moi, je recommande de venir avec une petite boisson et peut-être amener des questions si jamais les personnes se posent, ont des questions en tête, je serai là pour y répondre. Et voilà, tout simplement.
Eh bien, Arthur Doré, merci beaucoup d'être venu sur Ardua pour nous parler donc de Zyklab, une conférence donnée, comme tu l'as souvent répété, à l'avant-poste vendredi prochain.
Ouais, merci à toi pour l'accueil aussi.
Et nous nous quittons avec The Journey de First Quest.
Yeah.
Bonne soirée.
Ciao.